afin que nous devenions des disciples qui t'honorent toujours plus et des serviteurs qui te glorifient toujours plus. Nous avons besoin de toi et de ta présence, Seigneur. Et merci encore pour l'assistance de ton Esprit Saint. Et à ton nom soit toute la gloire. Merci de rendre nos cœurs attentifs à ta voix, afin que tu puisses nous bénir abondamment. À toi soit la gloire et la louange. Amen. Gloire à ton nom, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Restons dans cet esprit de louange et d'adoration. Il était important que nous prenions du temps à ouvrir nos cœurs pour le louer et l'adorer, n'est-ce pas vrai? Ceci est capital. C'est une leçon que chaque chrétien doit apprendre et chaque serviteur de Dieu aussi doit réaliser que, avant toute chose, c'est de la présence du Seigneur que nous avons besoin, n'est-ce pas vrai? Et c'est pour lui que nous venons. Et dans la mesure où nous l'élevons, nous prenons du temps à glorifier son nom, alors nos vies sont rassasiées par sa présence. Et sa parole ensuite peut pénétrer au plus profond de nous-mêmes. Amen. Même la plus faible parole, parce qu'elle a été préparée dans un cœur qui a loué et adoré le Seigneur, la plus faible parole peut porter du fruit, n'est-ce pas vrai? Ainsi, ne négligeons jamais cette partie indispensable de chaque réunion qui est d'adorer et de louer le Seigneur. Cela n'est pas seulement dû pour le dimanche matin. Certains chrétiens pensent que ça, c'est seulement pour le dimanche matin. Et même certains pasteurs peuvent penser ça. Ce n'est pas que pour le dimanche matin. C'est chaque fois que nous nous rassemblons. Nous devons prendre du temps pour lui. Amen. Et c'est là que quelque chose change dans notre vie et dans notre ministère aussi. Ceci est vital, vital, vital. Ainsi, comme c'est un séminaire pour serviteurs de Dieu, ou pour ceux qui sont au service de Dieu, et pour nos partenaires aussi, puisqu'elle est aussi consacrée à nos partenaires, ceux qui nous aident, donc qui sont aussi au service du Seigneur d'une manière. Nous allons voir quelques pensées sur des qualifications pour servir Dieu efficacement. Quelles sont les qualifications pour servir Dieu ou le Seigneur efficacement? Il y a des qualifications. Nous ne pouvons pas servir le Seigneur comme nous le voulons, n'est-ce pas vrai? Même si nous avons les bonnes dispositions, cela ne suffit pas. Ça n'ira pas trop loin, ça n'ira pas très loin. Il y a des qualifications que Dieu recherche en chacun d'entre nous si nous voulons accomplir l'œuvre que le Seigneur nous demande, si nous voulons achever le travail qu'il nous a confié, n'est-ce pas vrai? L'apôtre Paul pouvait dire « J'ai achevé l'œuvre que le Seigneur m'a donnée. J'ai achevé. » Il est allé jusqu'au bout. Trop de chrétiens, même de pasteurs, n'achèvent pas le travail, le ministère que Dieu leur a confié. Et que c'est tragique, n'est-ce pas vrai? Alors, quelles sont ces qualifications? Pour cela, nous allons prendre l'image que l'apôtre Paul nous donne dans la deuxième épître de Corinthe, deuxième épître de Paul aux Corinthiens, au chapitre 5. Nous allons prendre l'image de l'ambassadeur. En prenant l'image de l'ambassadeur que l'apôtre Paul nous donne, nous allons voir un peu les qualifications pour être un ambassadeur ici-bas et, par voie de conséquence, quelles sont les qualifications pour nous tous qui sommes des ambassadeurs du Seigneur ici-bas, n'est-ce pas vrai? Alors, il y a des vérités toutes simples que nous allons voir, mais il est bon de revenir à ces vérités toutes simples. 2 Corinthiens 5. 2 Corinthiens 5. On peut lire, si vous voulez, déjà à partir du verset 11. Connaissant donc la crainte du Seigneur, nous cherchons à convaincre les hommes. Dieu nous connaît, et j'espère que vos consciences, que dans vos consciences, vous nous connaissez aussi. Nous ne nous recommandons pas de nouveau nous-mêmes auprès de vous, mais nous vous donnons occasion de vous glorifier à notre sujet, afin que vous puissiez répondre à ceux qui tirent gloire de ce qui est dans les apparences et non dans le cœur. En effet, si je suis hors de sens, c'est pour Dieu. Si je suis de bon sens, c'est pour vous. Car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts, et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair, et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant nous ne le connaissons plus de cette manière. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses, pas certaines choses. Pas certaines choses. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ, et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions, au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Et quand il est dit ici, il l'a fait devenir péché pour nous, cela ne veut pas dire qu'il est devenu pécheur, le Seigneur. Attention, il y en a beaucoup qui ont mal compris ce passage. Ils ont pensé que quand Jésus est mort, il est devenu péché, c'est-à-dire qu'il est devenu pécheur. Est-ce que s'il était devenu pécheur, Jésus aurait pu mourir pour les pécheurs? Quand il est dit ici, celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, il l'a fait devenir sacrifice pour le péché. C'est tout à fait autre chose. Et quand Jésus est mort, c'était un sacrifice parfait. S'il était devenu pécheur, est-ce que son sacrifice aurait été parfait? Certainement pas. Il était le sacrifice pour le péché, mais il n'est pas devenu péché. Il faut bien faire attention. Et ce faux enseignement est enseigné dans plusieurs littératures. Kenneth Hagin, Kenneth Copeland, tout cet enseignement de la foi qui nous vient d'Amérique enseigne ces choses. Et c'est une hérésie. Et beaucoup de chrétiens ne se rendent pas compte de cela. C'est pourquoi nous devons faire très attention. C'était une petite parenthèse que je faisais là, mais qui est très importante. Quand Jésus est mort sur la croix, il n'est pas devenu pécheur. Il était lui le juste pour nous, injuste qui est mort sur la croix. L'innocent est mort pour nous, coupable. Il était justement le sacrifice parfait pour le péché, afin que nous soyons pardonnés de nos péchés. S'il y avait eu le moindre péché en lui, jamais il n'aurait pu mourir pour nos péchés, n'est-ce pas vrai? Il était le sacrifice parfait pour nos péchés. Alléluia! Il n'est pas devenu pécheur. Il n'a pas eu la nature de Satan en lui, comme ils le disent aussi. Ce sont des hérésies extrêmement graves. On dénature la personne et le sacrifice de Jésus. Et qui s'attaque au sacrifice et à la personne de Jésus, cela, c'est diabolique. Il nous faut donc faire très attention. On veut être des ambassadeurs pour Christ, mais pas des ambassadeurs qui disent n'importe quoi sur Christ. Amen. Sur le vrai Christ. Car il y a aussi les faux Christ, n'est-ce pas vrai? Ainsi, veillons donc. Ceci pour vous dire une fois de plus, que nous ne sommes pas ambassadeurs comme ça pour rien ou pour dire n'importe quoi. Il y a de grandes responsabilités, vous êtes d'accord avec moi? Quand vous lisez ce passage, connaissant donc la crainte du Seigneur, nous cherchons à convaincre les hommes, nous vous en supplions, soyez réconciliés avec Dieu. Vous voyez donc là le sérieux de l'apôtre Paul. Le sérieux, à côté de la légèreté et de la superficialité du message d'aujourd'hui, n'est-ce pas vrai? Bien souvent, on se demande si encore certains prêchent le même évangile que Jésus ou que l'apôtre Paul. Tellement c'est léger maintenant. On n'ose pas dire les choses comme il faudrait, de peur de perdre les gens. Et on n'ose pas. Et beaucoup de pasteurs sont tombés dans ce piège-là. Alors, ils ont du monde. Mais alors, quel monde? Quel monde? Vous posez des questions. Tout est en surface. Il n'y a rien en profondeur. Ça brille beaucoup, mais c'est l'extérieur. Et tout ce qui brille n'est pas or. N'est-ce pas vrai? Il faut bien faire attention. Et nous, nous sommes... C'est la parole qui le dit. L'homme regarde à l'apparence. Nous, on est impressionnés par l'apparence. La foule, par exemple. Oh là là, t'as vu ce monde? 10 000 personnes. Certainement, Dieu est là. C'est bien qu'il y ait 10 000 personnes. Là n'est pas le problème, la foule. C'est bien. Mais ça ne veut pas dire que la foule, parce que la foule est là, que ce que vous dites, c'est la vérité. Pas du tout. Ah, vous dites, ah oui, mais si la foule est là, c'est parce que je suis dans la vérité. Pas du tout, pas du tout. Ça ne veut rien dire tout ça. C'est le contenu du message qui est important. Pas la grandeur de la foule, mais le contenu du message. C'est cela qui est très important. Ne nous laissons donc pas influencer par les apparences, par la grandeur, par la foule. Toutes ces choses impressionnent l'homme, mais certainement pas le Seigneur. Alors, quelles sont les qualifications? Nous allons les voir brièvement, mais ce sont des vérités capitales pour nous ce matin, si nous voulons servir le Seigneur. La première pensée est celle-ci concernant un ambassadeur. Il doit être d'abord le citoyen de son pays. Amen. Est-ce que un ambassadeur doit être le citoyen de son pays? S'il n'est pas citoyen de son pays, est-ce qu'il peut représenter son pays? On ne peut pas demander à un étranger de représenter le pays d'un autre pays. C'est vrai, on ne peut pas. Donc, la première vérité est celle-ci. Il faut être citoyen des cieux pour représenter le Seigneur, pour être ambassadeur du Seigneur. Première vérité, eh bien, c'est Paul qui le dit, 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Donc, autrement dit, pour être un bon ambassadeur, il faut déjà savoir que nous sommes des enfants de Dieu, que nous sommes de nouvelles créatures, que nous avons fait une authentique conversion à Jésus-Christ. Amen. Car, écoutez-moi bien, vous n'amènerez pas les gens plus loin que là où vous êtes vous-même. Aussi bien en tant que chrétien qu'en tant que prédicateur. Si en tant que prédicateur, votre expérience de la conversion est très très légère, vous allez amener les chrétiens au même niveau que vous, pas plus loin. Vous ne les conduisez pas plus loin que là où vous êtes vous-même. Si votre conversion, si vous êtes converti à 40%, 50%, il y a même des chrétiens qui se convertissent tous les jours. On se sanctifie tous les jours, selon la parole, vous êtes d'accord avec moi? Mais est-ce qu'on se convertit tous les jours? temps en temps, on pose cette question à certains chrétiens de religion officielle. Êtes-vous converti? Ah oui, je me convertis tous les jours. Alors voyez-vous que on ne se convertit pas tous les jours. On se sanctifie tous les jours, ça c'est vrai. Une personne qui dit cela révèle quoi? Révèle qu'elle n'a pas fait une authentique conversion. Vous êtes d'accord avec moi? Quand on s'est converti, on sait ce que c'est. Amen. Alors, est-ce que votre expérience de la nouvelle naissance, de la conversion, d'un changement de vie a été radicale? Tout commence par là. Parce que tout votre ministère, tout ce que vous allez faire, votre témoignage, s'il n'y a pas à la base un homme, une femme qui peut dire « voici ce que j'étais et voici ce que je suis maintenant. Autrefois, j'étais aveugle, mais maintenant, je vois. » Autrefois, j'étais esclave et maintenant, je suis libre. Autrefois, j'étais perdu et maintenant, je suis sauvé. Autrefois, je n'avais pas d'assurance, mais maintenant, j'ai l'assurance de mon salut. Alléluia. Il faut un ambassadeur, doit parler avec autorité. Ah, mais je ne sais pas. Es-tu sauvé? Ah, je ne sais pas. Oh, vous savez, on n'est pas sûr. Qu'est-ce que c'est que ça? Comment on n'est pas sûr? Je vous ai écrit ces choses, disait Jean, l'épître Jean, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Amen. Alors voilà, si nous voulons être des ambassadeurs, il faut d'abord être citoyen des cieux. Comme l'ambassadeur terrestre doit être citoyen de son pays, nous devons être des citoyens des cieux. Dieu ne confie pas une tâche à quelqu'un qui ne lui appartient pas. Alors, avez-vous fait cette expérience? Parce que tout va dépendre de cela. Les gens vont vous observer, ils vont vous écouter. Être ambassadeur, c'est une grande responsabilité. Amen. Et vous ne pouvez pas dire aux gens, « Oh, écoutez ce que je dis, hein, mais ne faites pas ce que je fais. » Est-ce que ça marche, ça? Vous savez que les gens sont très impitoyables à l'égard des hypocrites, n'est-ce pas vrai? Très impitoyables. Regardez celui-là, il parle bien. Il parle bien, mais il ne vit pas très bien. Les gens sont très impitoyables à l'égard de la vie de la personne. Ainsi, nous ne pouvons tromper personne. Mais si nous avons fait une véritable expérience de la nouvelle naissance, les gens le verront aussi. Ils le voient. Ils voient quand on est hypocrite, mais ils voient aussi quand c'est authentique. N'est-ce pas vrai? Ah, celle-là, il y a quelque chose là. Il y a quelque chose là. Vous voyez, quand c'est authentique, c'est cela qui est important au départ. Il faut cette expérience sincère. Il faut ce changement radical par rapport au passé aussi. Combien de chrétiens bataillent encore? Parce que justement, il n'y a pas ce bon point de départ. La conversion, c'est quoi? C'est se détourner de son passé pour se tourner vers le Seigneur. C'est se détourner de son péché pour se tourner vers le Seigneur. Mais beaucoup encore, ils ne se sont pas vraiment détachés de leurs péchés, de leurs idoles, de ce qui était leur vie autrefois, qui déshonorait Dieu. Mais ce que je vous dis, c'est l'ABC, n'est-ce pas vrai? Mais combien encore en sont là à batailler, qui ont des problèmes et qui se disent chrétiens, qui sont encore des problèmes du passé, de leur conversion, d'avant leur conversion? Si un chrétien doit avoir des problèmes, c'est après sa conversion, d'accord? Parce qu'on doit grandir dans la sanctification, tout à fait d'accord. Qui peut dire qu'il n'a pas de problème? Je veux dire, on doit grandir. Mais tout ce qui est en rapport avec sa vie passée doit être radicalement coupé. Écoutez-moi bien, c'est très important ce que je vous dis là. Parce que là aussi, il y a de faux enseignements, un faux évangile. Par exemple, celui qu'on appelle la guérison intérieure. La guérison intérieure. Voilà, ça aussi, ça a pénétré au milieu de nous. Pourquoi? Où est-ce qu'ils vont? Ah, ils disent, ah oui, mais la guérison intérieure, c'est comme la sanctification. Oh, pas vrai. C'est pas vrai. Voyez-vous, attention, si vous ne faites pas attention, c'est très séduisant. Ça n'a rien à voir avec la sanctification. Comme je l'ai dit, la sanctification est en rapport à notre vie chrétienne. Tandis que la guérison intérieure dont il parle, c'est un rapport avec notre vie avant notre conversion. La preuve, c'est qu'on va chercher, soi-disant, dans notre enfance, les problèmes qu'il y a pu y avoir. Voyez-vous ? Donc ça vient avant notre conversion. Et on va chercher là des... Ah oui, ton papa t'a battu, là, il t'a donné une fessée, là, alors t'es traumatisé maintenant. Regardez-moi ça. Qui n'a pas reçu de fessée pendant qu'il était petit ? Dans ce cas-là, on est tous traumatisés. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Parce qu'on a reçu deux, trois fessées ? Et parce que le papa ou la maman a été méchant ? C'est pas bien tout ça. Ah non, il faut plus faire ça maintenant. À cause de ça, tu es traumatisé. Comment, à cause de ça, on est traumatisé ? Ça, c'est un langage humain qui n'a rien à voir avec la Bible. Amen. C'est un langage humain et qui réclame un remède humain, mais finalement qui n'est rien du tout. Tandis que la Bible, qu'est-ce qu'elle dit au sujet de tout ce passé ? Si vraiment ton papa ou ta maman t'a fait quelque chose, comment on règle le problème ? En pardonnant, bref, c'est tout. Au nom de Jésus, je te pardonne, mon papa, ma maman, je te pardonne. Et c'est terminé ! On n'a pas à revenir là-dessus. C'est le pardon qui libère. Ou je demande pardon, ou je pardonne. Et là, la libération est totale. Mais n'allez pas fouiller dans la vie des gens avant leur conversion. C'est très dangereux. Ce n'est pas biblique. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, qu'est-ce qu'il dit ? Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses, c'est quoi dans vos... Vous avez ça dans vos Bibles ? Est-ce que vous croyez la parole ? Alors, si on croit la parole, ça veut dire que, ah bon, les choses anciennes sont passées, c'est-à-dire après, tout ce qui s'est passé avant ma conversion, c'est fini. C'est pas moi qui le dis, c'est Paul, inspiré par le Saint-Esprit. Et maintenant, nous avons de la littérature, nous avons des livres qui se vendent par centaines, par milliers, et beaucoup de chrétiens, et même des pasteurs, se nourrissent de ça. Et empoisonne le peuple de Dieu. Et ils n'en finissent plus d'être guéris intérieurement. Il faut toujours les guérir d'une manière ou d'une autre. Toujours, ils sont là, ils ont besoin d'être guéris. C'est quoi cette histoire ? Voyez-vous ? L'importance d'avoir fait une expérience réelle. Et concernant le passé avant notre conversion, mes amis, le Seigneur a tout pardonné. Si vous avez quelque chose à pardonner, pardonnez. Mais il n'est pas question d'aller fouiller dans votre enfance. Jusque même dans le sein de sa mère. Vous vous rendez compte ? C'est quoi ça ? On va où ? La folie de l'homme, elle peut aller loin. Et les gens croient cela, des chrétiens. Alors comment... Est-ce qu'on est ambassadeur pour Christ à ce moment-là ? Non, on est ambassadeur d'une philosophie, d'une psychologie, d'un Freud ou d'un Jung. On est les ambassadeurs de ces hommes-là. C'est très important. Il faut être sérieux. Il faut croire ce que Dieu dit. Amen. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplira. N'ayons pas honte de la parole de Dieu. Pour la pensée humaine, c'est une folie. Mais elle est la sagesse même de Dieu. Alléluia. Alors, première qualification, être citoyen des cieux. Mais alors, avoir fait une authentique expérience, une coupure avec le passé, avec ses idoles aussi, et tout cela. Combien de chrétiens, soi-disant, ils bataillent aussi avec la cigarette, par exemple. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Mais ce problème devait être réglé à la conversion. Combien de fois déjà des chrétiens qui viennent prier pour moi pour être délivré de la cigarette ? Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Et à la conversion, qu'est-ce que tu as fait ? Tu as été délivré de quoi à la conversion ? C'est à la conversion tout ça. Ça, c'est la vie du passé. Vous êtes d'accord avec moi ? Ah, mais on ne m'a pas dit. On ne m'a pas dit qu'il fallait abandonner la cigarette. Voyez-vous, regardez le piège de certains pasteurs pour ne pas faire de la peine et pour ne pas qu'ils s'en aillent. Pour ne pas qu'ils s'en aillent parce qu'ils veulent avoir beaucoup de monde. Regardez le piège. Vous voyez, tout ça, c'est très subtil. Au lieu de dire, mon frère, ma sœur, tu veux vraiment te convertir, eh bien, tout cela, c'est ta vie passée, tu dois l'abandonner. C'est cela, la repentance, vous êtes d'accord avec moi ? C'est tout simple, mais cet évangile est tout simple. Parce que cet évangile est simple, il est puissant, alléluia ! Mais tout ce que nous avons ajouté, qu'est-ce que ça fait ? Les gens, vous voyez, en ne disant pas ce qu'il faut dire, vous voyez, les gens végètent spirituellement. Un jour, il viendra, ça y est, je suis délivré, ça y est, c'est réglé. Le lendemain, vous voyez, oh, un autre problème qu'elle a. Ah, j'ai réglé ça, puis ah, bah, le lendemain, encore un autre problème. Vous voyez qu'ils ne s'en sortent jamais. Parce qu'ils ne règlent pas les problèmes comme Dieu le veut. On ne règle pas les problèmes bibliquement parlant. Selon la parole, on les règle humainement parlant. Voilà pourquoi rien ne tient. N'est-ce pas vrai? Alors n'ayons pas honte, soyons courageux. Comme Paul, disons les choses comme elles doivent dites. Qu'il y ait d'authentiques conversions, nouvelles naissances, avec une coupure radicale, avec le passé. Oh, priez pour moi, délivrez-moi de ma cigarette. Repens-toi, tout simplement. C'est la repentance qui est la clé de la délivrance. À partir du moment où tu demandes pardon, Seigneur, d'avoir fait quelque chose qui n'était pas bien, et que tu dis maintenant, Seigneur, c'est terminé. J'abandonne cela. Parce que se repentir, c'est confesser et abandonner. Abandonner. À partir de ce moment-là, si tu le fais de tout ton cœur, la délivrance est totale. Amen. Même s'il peut y avoir quelques combats, tu dois faire cet acte de foi et dire à partir de maintenant, c'est fait. Amen. Et c'est ainsi qu'on peut vraiment grandir spirituellement. C'est un bon départ qu'il faut. Mes amis, si on prend un mauvais départ, qu'est-ce qui se passe? L'arbre, quand il pousse tordu au départ, est-ce que vous pouvez le redresser après? C'est quand est-ce qu'il faut le redresser? C'est tout de suite. Quand ça part tordu, là, vous mettez un tuteur, allez. Voilà. C'est au départ, tout de suite, qu'il faut bien mettre les choses, bien dire ce qu'il faut dire. À partir d'un certain moment, c'est trop tard. Les gens n'en veulent plus. Et vous n'osez même plus leur dire des choses. De peur qu'ils pensent que vous les avez trompés. Alors voyez-vous, c'est une chaîne sans fin. C'est comme un engrenage qui est là. Alors, annonçons les choses telles qu'elles sont. Et Dieu honorera sa parole. Amen. S'il y en a certains qui doivent partir, laissez-les partir. S'ils ne veulent pas changer de vie, il vaut mieux qu'ils s'en aillent. Amen. Et Dieu vous donnera des vraies personnes qui aiment vraiment le Seigneur et qui réjouiront aussi votre cœur. Parce que ceux que vous ménagez, ce sont ceux-là qui vous feront souffrir le plus. Ne l'oubliez pas. Celui-là, faut pas que j'aille trop vite, trop fort. Ah, vous l'aménagez, vous savez qu'il y a quelque chose qui ne va pas et vous ne dites pas les choses. Eh bien, de ses propres mains à elle ou à lui, vous allez souffrir. Au lieu de l'aider tout de suite, de dire les choses comme elles sont, c'est ainsi qu'on avance et c'est ainsi qu'on aide les gens. Amen. Gloire au Seigneur. Alors, premièrement, être citoyen des cieux, une authentique conversion. Car c'est alors qu'on peut se lever et parler de la conversion quand nous-mêmes, on a fait une vraie expérience. Vous êtes d'accord avec moi? C'est là que vous avez de l'assurance. Ah, voilà ce que le Seigneur peut faire dans ta vie. Voilà ce que j'étais. Et voilà ce que je suis devenu. Vous parlez avec autorité. Mais s'il n'y a rien eu dans votre vie, tout léger, alléluia, le Seigneur vous aime, alléluia. Oui, c'est bien. Il n'y a pas de changement, il n'y a rien. Ça flotte. C'est vrai. Voilà, ça flotte. On n'est pas là pour flotter. On est là pour avancer avec le Seigneur. Alors, deuxième qualification. Pour être un ambassadeur, il faut que cet ambassadeur aime son pays. Vous êtes d'accord avec moi? C'est la moindre des choses. Bon, il est citoyen maintenant de son pays, mais il faut qu'il aime son pays. Est-ce que le gouvernement va choisir un ambassadeur qui n'aime pas son pays? Certainement pas. Vous êtes d'accord avec moi? Il va choisir celui qui aime, qui apprécie son pays, qui connaît son pays et qui va présenter cela devant les nations dans un autre pays. Donc, deuxième qualification, c'est quelqu'un qui aime son pays. Spirituellement parlant, c'est quoi? C'est donc quelqu'un qui aime le Seigneur. Qui aime le Seigneur de tout son pays. Voilà une deuxième vérité importante. Il aime le Seigneur. Il l'aime. Et C'est là quelque chose qui doit remplir notre cœur. Car l'amour de Christ nous presse, disait Paul. Alors j'aime le Seigneur parce que je sais qu'il m'aime et qu'il a fait tant de choses dans ma vie. Il m'aime et il m'aime pas seulement quand tout va bien, quand il fait soleil. Mais dès que le ciel s'obscurcit, les nuages arrivent et qu'on ne voit plus le soleil, est-ce que vous dites que le soleil n'existe plus ? Même si les nuages sont là et que vous ne voyez plus le soleil, qui est l'amour de Dieu pour nous, Dieu est toujours là. Son amour est toujours là. Nous devons être de ceux qui croient en son amour pour nous, même lorsque les choses ne vont pas comme on veut. Et c'est ainsi qu'il en était avec Paul, n'est-ce pas vrai ? Rejeté, critiqué, persécuté, balloté à gauche et à droite. Cependant, l'amour de Christ nous presse, disait-il. Cela voulait dire que jamais, en aucun cas, il n'a douté de l'amour du Seigneur. Quand il est dit dans Romains 8, 37, « Mais nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. » Quelle vérité ! C'est quand nous nous savons aimés du Seigneur, quelles que soient les circonstances, que nous vivrons une vie de vainqueur. Amen. Voilà une vérité importante pour chacun d'entre nous, pour tout serviteur de Dieu, tout chrétien. Ne croyons jamais que le Seigneur ne nous aime plus parce que nous avons des difficultés. Ne croyez jamais ce mensonge. Alors à ce moment-là, l'apôtre Paul, il devait se morfondre dans son état et croire que Dieu l'avait abandonné. Pas du tout. Au contraire, le chrétien victorieux, vainqueur, c'est celui qui peut dire « J'aime le Seigneur parce que je sais qu'il m'aime. » Quelles que soient les circonstances, quand le soleil brille, quand la pluie est là, tout se dresse contre moi. Son soleil brille toujours, son amour est toujours là. Je sais qu'il m'aime. Il ne m'a pas abandonné puisque je ne l'ai pas abandonné. Il ne m'a pas abandonné. Je sais qu'il m'aime. Quel témoignage. Quelle force intérieure. Car douter que Dieu nous aime, mes amis, à cause d'une épreuve ou d'une autre, c'est fini, on n'a plus de témoignage, n'est-ce pas vrai ? Parce qu'aller après dans le monde, dire quoi que ce soit, même à d'autres chrétiens, comment pouvez-vous dire à d'autres chrétiens ? Mais le Seigneur t'aime, mon frère, ma soeur. Le chrétien a une difficulté. Ah oui, mais tu vois, qu'est-ce qui s'est passé ? Mon enfant est mort. On a eu un accident. Je prie, on n'a pas de travail. Plus je prie, plus c'est pire encore. J'ai prié pour un malade, le malade est mort maintenant. Alors, Non, ça ne va pas, là. Le Seigneur m'a abandonné. Et si vous, dans votre cœur, vous avez cru ces choses, et que vous n'avez pas encore trouvé la solution à ça, est-ce que vous allez pouvoir l'aider ? Vous ne pourrez pas l'aider. Mais si vous avez fait des expériences similaires et vous en êtes sorti vainqueur en disant « Mais Seigneur, quelles que soient les circonstances, je sais que tu m'aimes, je sais que tu es avec moi. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Rien ne nous séparera de l'amour du Seigneur, ni la mort, ni les tribulations, ni l'angoisse, ni tout cela, rien ne nous séparera. Amen. Alors à ce moment-là, si vous avez été vainqueur, vous pouvez aider les autres à être vainqueurs aussi. N'est-ce pas vrai ? C'est très important. Très important. Alors c'est quelqu'un qui aime le Seigneur parce qu'il sait qu'il est aimé du Seigneur. Pouvez-vous dire ce matin, je sais que le Seigneur m'aime, quelles que soient les circonstances par lesquelles je passe. Mes amis, s'il y a une faute quelque part, la faute n'est jamais avec le Seigneur. Amen. Dieu ne fait jamais d'erreur. Est-ce que nous en sommes convaincus ? Ne mettez jamais la faute sur le Seigneur en disant, pourquoi le Seigneur a permis ça ? Pourquoi le Seigneur a permis ça. Et vous êtes dans ces questions-là, vous n'en sortez plus. Il a permis ces choses, non pas pour te montrer qu'il ne t'aime pas, mais qu'au travers de cette épreuve, il voulait te révéler son amour, son aide, son soutien. Comme un enfant qui est en difficulté. Est-ce que les parents l'abandonnent justement parce qu'il est dans les difficultés? Les parents sont justement là pour être encore plus près de son enfant pour l'aider, n'est-ce pas vrai? Quel parent dirait-il à son enfant parce que tes difficultés maintenant ne comptent plus sûrement l'amour? Quelle folie! C'est à ce moment-là que l'enfant a le plus besoin de l'amour, de la présence de ses parents. Ainsi, affirmons, soyons convaincus, un ambassadeur aime le Seigneur parce que le Seigneur l'aime. Quelles que soient les circonstances, favorables ou non, le Seigneur m'aime. Ne doutez jamais de son amour, mes amis. À partir du moment où un chrétien doute de son amour et de la sagesse de Dieu, alors ce chrétien, il est emporté d'une manière ou d'une autre. Il n'a plus de racines parce qu'il doute ce qu'il ne faut jamais douter. Il met en doute une vérité capitale de la parole. Si ta mère t'abandonnait, moi, l'Éternel, je ne t'abandonnerai point. Alléluia! Quelle vérité extraordinaire! Notre Dieu est merveilleux, car l'amour de Christ nous presse. Voilà Paul, comment il était étreint par cet amour, qui, pour lui, était toujours là, qu'il soit dans une réunion ou en prison. Sa conviction que Dieu l'aimait était toujours là. Et c'est cela qui lui donnait cette assurance, n'est-ce pas vrai? En lui-même et aussi pour pouvoir témoigner aux autres. Amen. Voilà une vérité importante pour un ambassadeur. N'est-ce pas vrai? Voyons une autre vérité. Un ambassadeur, s'il veut être vraiment un ambassadeur, doit être en contact permanent avec son pays. Avec son pays. Vous êtes d'accord avec moi? Il est dans un pays étranger, mais il doit être constamment en contact avec son gouvernement. Et nous, en tant qu'ambassadeurs du Seigneur, nous devons constamment veiller à notre communion avec le Seigneur. Ceci est vital. Nous devons veiller à être constamment en communion avec le Seigneur par sa parole et par son esprit. Amen. Et veiller à ce que rien ne vienne être un obstacle entre le Seigneur et nous. Nous devons constamment veiller à cela. Sinon, l'efficacité de notre témoignage s'en fera ressentir. Et nous serons ambassadeurs là. Mais si nous savons que si l'ambassadeur sait qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec son gouvernement, est-ce qu'il pourra parler avec autorité? Non. S'il y a quelque chose qui est là, s'il n'y a pas ce contact, il est fort parce qu'il est constamment en contact avec son gouvernement. Il sait ce qu'il doit dire, il sait ce qu'il doit faire. Il vit dans cette lumière, dans cette communion. C'est important, n'est-ce pas vrai? Il en est de même pour nous. Nous devons veiller à éliminer de notre vie tout ce qui pourrait être un obstacle. Tout. Il n'y a pas de péché véniel ou de péché mortel, comme on l'a si souvent entendu, n'est-ce pas vrai? Tous les péchés sont mortels. Et nous devons veiller. La moindre chose qui me sépare de mon Dieu doit être éliminée, mes amis. Trop de chrétiens jouent avec le péché maintenant. Et après, ils sont étonnés de ce que il n'y a pas l'appui divin. Le Seigneur n'est pas là pour appuyer, pour réconforter, parce qu'il y a quelque chose qui nous sépare. Veillons, ne jouons jamais avec le péché. Si nous ne tuons pas le péché dans nos vies, c'est le péché qui nous tuera. Ne l'oublions pas. Ne donnons pas des excuses au péché, mes amis, comme justement la psychologie actuellement. Quand il y a quelque chose qui ne va pas, vous avez fait de mal, qu'est-ce qu'on vous dit encore là ? Tu es une victime. Ce n'est pas de ta faute. C'est la faute du papa. Ils en prennent un bon coup, les papas et la maman. Ah, les parents, ils en, je vous assure, avec cette psychologie, les parents, ils en prennent un bon coup. Hein, c'est tes parents, ils t'ont mal élevé. Un jour, il t'a dit quelque chose qui n'était pas très bien. Alors voilà, c'est toujours la faute des autres. La psychologie, c'est ça, il faut faire attention. Ça pénètre dans les églises, il y a des pasteurs, il y a même des mouvements qui pensent que si un pasteur n'a pas fait des études psychologiques, il ne peut pas aider les gens. C'est une folie, c'est un autre évangile. Car que dit la psychologie ? Le fond, je parle de la fond. On peut dire, il peut y avoir des pensées, des bonnes pensées, bien sûr. Mais je parle de la racine même. La psychologie, que c'est quoi ? Quand quelque chose ne va pas avec quelqu'un, c'est jamais la faute de la personne. Vous avez remarqué ? C'est toujours la faute de l'autre. La personne est une victime et ce sont les autres qui sont responsables. Mais vous, on vous justifie tout le temps. Ah oui, t'es là, t'es dans cet état-là ? Non. C'est le papa, la maman, ou le grand-père, ou la grand-mère, s'ils sont encore vivants, s'ils sont encore là. On ne va pas tout mettre sur le papa et la maman, sinon ça va faire des histoires. Ou même s'ils ne sont pas là, peut-être ça les arrange encore mieux. Quand s'ils n'osent pas dire que c'est le papa et la maman, et que le grand-papa et le grand-maman sont morts, ah oui, c'est peut-être la faute du grand-papa et le grand-maman, pour pas qu'il y ait trop de réactions. Oui, on est prêt à dire n'importe quoi, vous êtes d'accord avec moi ? On est prêt à dire n'importe quoi ! Et cela pourquoi ? Pour justifier notre péché. Et dire que, voilà, ben, finalement, on est une victime. Et cela, combien de fois on l'entend ? Il n'y a pas longtemps encore, dans les entretiens. Ah, pourquoi ? Oh, je suis une victime. L'autre a fait ceci, l'autre a fait cela. Alors, on a mal réagi, on a été une victime. Oh, chacun est responsable devant Dieu. Vous êtes d'accord avec moi ? Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? On n'est pas des victimes aux yeux du Seigneur. Nous sommes tous responsables de notre propre vie. Si l'autre a fait quelque chose de mal, elle est responsable devant Dieu. Mais toi, tu es responsable de tes actions ou de tes réactions. Arrête de dire toujours que c'est la faute des autres. Si tu sens qu'il y a quelque chose qui n'est pas bien en toi, eh ben demande pardon. Enlève, ôte. Prends tes responsabilités. C'est vital, mes amis. Tant que nous disons c'est la faute des autres, nous n'en sortirons pas. C'était le problème de David. Vous savez, entre le péché qu'il a commis et la confession de son péché, vous croyez que ça s'est fait tout de suite ? Il a passé un certain temps. Hein ? Et pourquoi il ne l'a pas tout de suite confessé ? Parce qu'il pensait que... Hein, il mettait la faute un peu sur les autres. Et comme il était le roi, il pouvait se permettre d'avoir le raisonnement qu'il veut. Jusqu'au jour où, comme Dieu ne voyait pas qu'il change, il a envoyé le prophète, comment il s'appelait ? Nathan. Et il lui a dit, tu es cet homme-là. Et tout de suite, il a changé d'attitude. Il a dit, bon, je reconnais ma faute. Voyez-vous, c'était là, mais il ne voulait pas le reconnaître. Et nous, bien souvent, on dit c'est les autres aussi. Mais on sait que c'est nous, finalement. Mais on ne veut pas l'admettre. C'est tout simplement de l'orgueil. Et tant que cet orgueil est là, la communion avec le ciel est coupée. Et c'est ce qui fait notre faiblesse. Et c'est ce que le diable veut, mes amis. Il veut nous séparer de nos arrières, de la puissance qui est là derrière nous, de l'autorité céleste, de la présence du Seigneur. Il veut nous isoler. Il n'y a rien de tel que le péché pour nous isoler, ou notre orgueil. N'est-ce pas vrai ? Alors, il faut qu'il soit constamment en communion avec son gouvernement. Parce qu'il n'est pas là pour dire ce qu'il veut. Il est là pour dire ce que son gouvernement veut. Il n'est pas là pour faire ce qu'il veut. Il n'improvise pas là-bas. Il n'improvise pas. Il doit tout faire comme il veut, comme son gouvernement veut, et non pas comme il veut. Amen ? Donc veillons à cela, un ambassadeur. On est ambassadeur du Seigneur, mais on doit veiller à notre communion. Rien, que rien ne soit là entre nous et le Seigneur. C'est terrible quand des chrétiens vivent pendant des années avec un problème qu'ils ne veulent pas régler à cause de l'orgueil. Que c'est terrible. Et pendant toutes ces années, on vit dans la souffrance. On vit malheureux. On s'épuise. On demande la prière. On dit même au pasteur de prier, de jeûner. Et on dit même le nombre de jours qu'il doit jeûner. Ah mais j'ai dit à tel pasteur de jeûner 2 jours, ça n'a pas marché. Vous, il faut jeûner 1 semaine au moins. Ah oui, ah pour ça. Hein? Quand on ne veut pas reconnaître que le problème est là, alors on commence à dire n'importe quoi. Mes amis, es-tu maintenant en communion avec ton Sauveur? Est-ce que tu peux dire que le Seigneur est là? J'ai tout mis en ordre. Quelle assurance! Et ça, c'est une marche permanente. Quand l'apôtre dit de prier sans cesse, c'est cela. Cette prière sans cesse, ce n'est pas être tout le temps à genoux. Il y a un temps pour cela. Mais c'est cette communion constante, amen, qui fait que constamment on se remet en question. Parce que les problèmes que nous ne réglons pas, qu'est-ce qui se passe? Vous croyez qu'avec le temps, ça va s'arranger? Certains chrétiens sont assez naïfs pour ça. Tiens, ça fait 10 ans qu'on n'en parle plus. Certainement que c'est réglé. Pas du tout. À un moment donné, pouf, ça jaillit. Ah bon? J'ai cru que c'est réglé. Non, 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 c'est pas comme ça que ça se règle. C'est pas en oubliant comme ça, en faisant rien du tout. Non, non, non. S'il faut pardonner ou demander pardon ou confesser quelque chose, il faut le faire, c'est tout. Et c'est comme ça qu'on règle les problèmes. Amen. C'est comme cela. On est trop léger. On ne fait pas les choses selon la parole de Dieu. Et voilà pourquoi on est triste, on va par-ci, par-là, on travaille, on s'épuise. Alors que le Seigneur voudrait renouveler nos forces chaque jour pendant la marche. Il renouvelle leurs forces pendant la marche. C'est pourquoi il relève la tête. Alléluia! Un ambassadeur doit être en communion constante avec son pays pour qu'il soit efficace.
On passe. Un ambassadeur, qu'est-ce qu'il est encore? Il est le porte-parole de son pays. Vous êtes d'accord avec moi? Il est le porte-parole. Il n'est pas là pour raconter ce qu'il veut. Il y a un programme que le gouvernement lui a donné et il doit dire exactement le programme du gouvernement ou le discours du gouvernement ou la politique du gouvernement. Mais c'est pas vrai. C'est cela, c'est tout simple. Et pour nous, il en est de même. Nous sommes des ambassadeurs. Nous devons être les porte-parole du Seigneur. Comme on l'a lu, nous sommes ambassadeurs pour Christ. Ça veut dire que nous sommes là pour dire les paroles du Seigneur. Non pas ce que nous pensons, mais ce que lui pense, ce que lui a dit. Et aujourd'hui, la fidélité à la parole de Dieu, ça c'est aussi un autre problème. On n'ose plus dire la vérité, parce que si on dit toujours la vérité, les bancs vont s'éclaircir dans l'église aussi. Ah, ça va s'éclaircir un petit peu. Mais ne craignez pas cela. Le Seigneur remplira ses bancs par d'autres personnes qui aiment le Seigneur et avec lesquelles vous aurez de la joie et vous pourrez travailler sans craindre qu'un jour il vous abandonne ou il se tourne contre vous. Il est le porte-parole. Donc, nous sommes là pour annoncer la parole, dire ce que Dieu dit, que ça plaise ou pas. Nous devons veiller à cela plus que jamais, mes amis, parce qu'actuellement, il y a tant d'hérésies, de fausses doctrines dans l'Église en général, n'est-ce pas vrai? Tant de choses, tant de nouvelles philosophies et fausses doctrines. Ça ressemble à la vérité, mais ce n'est pas la vérité. Et si vous ne connaissez pas bien votre parole, vous n'allez pas discerner que ce qu'on vous dit n'est pas selon la parole. Donc un ambassadeur doit bien comprendre le message de son gouvernement ou la politique de son gouvernement. Vous êtes d'accord avec moi? Parce que s'il commence à raconter dans l'autre pays où il est, voilà, je pense que ceci, cela, mon gouvernement a dit ça, mais moi je pense qu'il faudrait ajouter ça ou retrancher ça. Vous croyez que ça va marcher? Tout de suite, il est rappelé au pays et il va planter tes carottes ou tes choux. Tu feras peut-être un meilleur travail pour ça, mais pour ce qu'on t'a demandé, tu es disqualifié. L'ambassadeur n'est pas là pour raconter ce qu'il veut ou pour faire plaisir aux uns et aux autres. Mes amis, il est le porte-parole du Seigneur. Nous sommes là pour prêcher la parole et rien d'autre. Prêche la parole, disait l'apôtre. Prêche la parole, insiste en toute occasion. Car c'est elle qui transforme les vies, c'est elle qui éclaire, c'est elle qui sonde. Les paroles humaines, les paroles sagesse humaine n'ont jamais vraiment aidé quelqu'un. Ah oui, sur le moment, ça aide un peu. On a l'impression. Toi, tu es à côté, tu prêches la parole, et puis au début, ça crée plutôt des problèmes, tandis que l'autre, il a du succès. Ah, mais c'est qu'un succès temporaire, ça. Parce que la parole de Dieu, avant de guérir, elle blesse. Tandis qu'avec le mensonge réconforte d'abord. Mais après, paf, tue. Le mensonge tue. C'est ça la séduction. C'est ça la ruse. Sur le moment, ah, c'est formidable. Alors c'est comme pour dire, oh là là, la parole. Vous voyez bien, Dieu nous bénit, même sans être aussi dur que vous. Comme pour dire, celui qui prêche la vérité, c'est quelqu'un de dur. Tôt ou tard, ça se redressera contre la personne. Le mensonge ne paye pas, mes amis. Ne paye pas. La vérité, elle peut blesser d'abord. Mais elle guérira ensuite. Il est le porte-parole. Est-ce que tu es le porte-parole de son gouvernement? Et beaucoup de chrétiens ou de pasteurs sont des porte-paroles de leur mouvement, j'allais dire, dans le sens que si le mouvement dit ça et que la Bible dit autre chose, ils suivent le mouvement. Regardez ça. Attention, c'est dangereux. Il faut faire partie d'un mouvement, faire partie d'une église. Là, n'est pas le problème. C'est important. Chacun doit être engagé, n'est-ce pas vrai? Mais on ne doit pas suivre aveuglément n'importe qui. Et sans dire quoi que ce soit. C'est dangereux. Parce que chacun est responsable devant Dieu. Vous n'êtes pas vous êtes ambassadeur pour Christ. Vous n'êtes pas ambassadeur d'un mouvement. Vous êtes le porte-parole du Seigneur, mais pas d'un mouvement. Le mouvement est là, bon, dans lequel vous travaillez, ou l'Église. Bon, c'est très bien tout cela. Mais on est avant tout le porte-parole du Seigneur. Nous sommes ambassadeurs pour Christ. C'est avant tout notre fidélité au Seigneur qui est importante. Sinon, tôt ou tard, vous verrez que c'est la disqualification. Ça ne tiendra pas, tôt ou tard. Même s'il y a un succès apparent, tôt ou tard, Dieu ne pourra pas confirmer toutes ces choses. C'est pourquoi dans notre cœur, devant Dieu, il est le porte-parole du Seigneur. Que disait Paul? Si je voulais encore plaire aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Pensons bien à cela, mes amis. Avons-nous la crainte des hommes ou la crainte de Dieu dans notre cœur? Qu'est-ce qui vous anime? Est-ce que quand vous prêchez, vous parlez, est-ce que vous vous dites, que va-t-il dire? Que va-t-elle penser? Ou alors, qu'est-ce que le Seigneur va penser? Ça, c'est le plus important. Pensons à ce que lui pensera et non pas à ce que les autres penseront. Ben, il faut du courage pour ça, je vous assure. Vous perdrez peut-être des amis, mais le Seigneur, lui, ne vous abandonnera jamais. Ah, vous en perdrez les amis. Laissez-moi vous dire, peut-être même vos meilleurs amis, vous les perdrez. Mais il est le porte-parole du Seigneur. Il ne cherche pas à plaire ni à Pierre ni à Paul. Il aime, il respecte, mais c'est avant tout le Seigneur et la fidélité au message qui est important. Amen. Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de la vie. Amen. Voilà, le temps passe. Que le Seigneur bénisse cette parole dans nos cœurs. Et nous verrons comment le Seigneur nous conduira encore cet après-midi.